Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Pour la 7e fois dans l'histoire, le PSG va encore croiser le FC Barcelone en Coupe d'Europe. Le quart de finale aller aura lieu le mercredi 10 avril au Parc des Princes et on va évidemment s'intéresser à ce choc. Le Barça va mieux depuis 2 mois, un regain de forme qui coïncide avec l'annonce du départ de Xavi de son poste d'entraîneur. Comment juger ce renouveau sur le terrain? Quel 11 probable contre le PSG? Et qui sont les nouveaux visages qui ont encore émergé de la Masia? Le Barça, 2e de Liga, avec 7 points de retard sur le Real, éliminé de la Coupe d'Espagne, est-il suffisamment prêt pour défier le PSG de son ancien entraîneur Luis Enrique? Quoi de mieux pour parler de ce choc PSG-Barcelone qu'un binôme dans les deux villes? À mes côtés, en studio à Paris, Christophe Kuchli. Bonjour Christophe.
Bonjour Baptiste, bonjour tout le monde.
Et depuis Barcelone, notre correspondante pour l'équipe, Tracy Rodrigo. Bonjour Tracy.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Et comme le veut la formule consacrée, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Celui qui veut venir au Barça devra attendre la fin de la saison. Nous ne ferons rien avant que Xavi ne prenne sa décision. Dans une interview à Mundo Deportivo, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, est revenu sur le futur départ de son entraîneur. On en avait d'ailleurs fait un podcast. Xavi s'est expliqué en conférence de presse vendredi, je pense, à ce qui est le mieux pour le club. Tracy, avant de foncer sur la présentation du choc contre Paris, est-ce qu'on peut revenir sur ses déclarations de la semaine dernière? On a le sentiment que Xavi n'a jamais vraiment pensé un instant revenir sur sa décision.
C'est assez compliqué parce que Xavi a beaucoup de soutien au sein de la direction, pas tout le monde, mais il a pas mal de soutien, déjà du président Joan Laporta, ce qui est quand même assez important. Les relations avec Deco sont bien meilleures que ce qu'elles ont pu être précédemment, même si ça n'a jamais été la guerre, hein, pas du tout, mais il y avait quelques désaccords. Personnellement, j'ai plutôt la sensation que Xavi a fait le très bon choix en annonçant son départ. Il a totalement refilé en fait la pression à ses joueurs et à sa direction, lui qui jusque-là prenait toute la pression sur lui. Et vous savez ce qu'on dit, on sait qui l'on perd, on ne sait pas qui l'on gagne. Et en fait, depuis que Xavi a annoncé son départ, ce qui se passe, c'est qu'on se demande ici à Barcelone s'il est possible, dans la situation actuelle du Barça, dans la situation économique dans laquelle se trouve le club, est-ce qu'il est possible finalement de trouver mieux que Xavi? Je n'ai pas la réponse, mais il est vrai que Xavi a un petit entre guillemets salaire par rapport à ses compères de Liga que sont Carlo Ancelotti ou Diego Simeone. Il accepte d'avoir des mercatos tronqués, d'avoir des mercatos où les joueurs arrivent soit à la fin, avant prêt, on ne sait pas combien il y aura d'argent disponible, etc. Je peux vous dire que ce n'est pas tous les entraîneurs qui acceptent ce type d'environnement. Donc voilà, du côté de la direction, on se pose la question de savoir si finalement garder Xavi n'est pas la meilleure solution. Et du côté de Xavi, il est un petit peu espiègle quand même. Hein. Il dit qu'il ne reviendra pas sur sa décision, mais quand on lui pose la question, il dit « pour l'instant, je n'ai pas changé d'avis, je ne sais pas s'ils peuvent arriver à me faire changer d'avis ». Ses proches, quand on pose la question, nous disent qu'il ne changera pas d'opinion, qu'il restera fixé sur sa décision. Mais je vous avoue qu'ici, l'environnement fait que tout le monde se pose la question de savoir si réellement il va rester sur son opinion. C'est assez difficile à décrire, mais quand on est aux conférences de presse, quand on est, il y a cette sensation qu'il y a une espèce de jeu qui s'est installé et que tout est encore possible. Voilà. Et en fait, tout le monde se pose la question de savoir justement qu'est-ce qui va se passer si le Barça se qualifie en demi-finale.
Alors, depuis l'annonce de son départ, c'était après la défaite contre Villarreal 5-3. Xavi enchaîne avec une série de 8 succès et 3 nuls. Est-ce qu'on peut dire, Tracy, qu'il y a eu un déblocage mental du côté des joueurs?
C'est pas possible de dire l'inverse parce que il y a eu véritablement un avant-après, même s'il y a eu quand même des matchs un petit peu difficiles depuis cette annonce. Il y a eu un 3-3, notamment à domicile contre Grenade, qui a été assez difficile à encaisser pour les supporters. Mais c'est vrai que Il y a eu un avant-après, non seulement au niveau des résultats bruts, aussi au niveau des buts encaissés, parce que le Barça, on sait que Christophe va sûrement en parler, mais le Barça a encaissé énormément de buts. Désormais, le Barça, je crois, reste sur 5 clean sheets consécutives. Donc, oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un changement. Les joueurs qui, jusque-là, je l'ai dit, n'avaient aucune pression parce que toute la pression était sur Xavi, se sont pris un petit peu de face la pression que Xavi leur a gentiment donnée. Certains joueurs, je vous le dis, ne veulent pas que Xavi s'en aille. C'est le cas notamment des jeunes qui forcément se sont révélés sous Xavi et donc ils ont envie qu'il reste. Il n'y a pas un consensus dans le vestiaire, tout le monde n'a pas envie que Xavi reste. On sait que par exemple avec João Félix, la relation n'est pas forcément excellente, Xavi n'en avait pas forcément envie. Mais en tout cas, oui, il y a eu un déblocage au niveau mental. Et notamment un espèce d'esprit qui s'est construit en Ligue des Champions. Les deux matchs face à Naples, qui ont été assez bons même au niveau du contenu, on a l'impression qu'il y a eu vraiment un déblocage à ce moment-là.
En effet, ils n'ont pris aucun but sur les 5 derniers matchs en championnat. Ils ont pris un seul contre Naples au match retour. Sur le terrain, qu'est-ce qui a changé, Christophe ? Est-ce qu'on peut dire que le match référence de ce Barça 2024, c'est le 3-0 au Metropolitano contre l'Atlético Madrid en championnat ?
Oui, je ne suis pas loin de le penser, même s'il faut toujours corréler les performances d'une équipe avec celle de l'adversaire. Et là, je pense que l'adversaire n'avait pas fait un match incroyable. Ce n'était pas forcément le meilleur Atlético possible. Mais cette performance résonne quand même parce que c'est un adversaire qui est encore en lice en Coupe d'Europe. Alors, sur le terrain, je pense qu'on peut distinguer deux choses. C'est-à-dire l'aspect difficilement quantifiable, difficilement mesurable sur les performances individuelles, les esprits libérés. C'est-à-dire que je trouve que Lewandowski, depuis quelques matchs, est meilleur. Alors, je ne vais pas dire que ça ne pouvait pas être pire, mais disons pour un joueur de la trempe de Lewandowski, il y avait quand même une forme de sous-performance qui me semblait un petit peu alarmante. Et là, il retrouve un petit peu, alors peut-être pas ses standards des meilleures années, parce que bon, je crois qu'il a 35 ans, donc ça commence à chiffrer un petit peu. Mais en tout cas, la version que j'imagine le Barça pensait recruter est celle des premières semaines quand il est arrivé la saison dernière. Donc je pense qu'il y a un des joueurs qui sont peut-être libérés par cette annonce. Alors, on peut être libéré de plein de façons. Hein. Jürgen Klopp qui annonce son départ à Liverpool, les joueurs sont aussi très performants. Donc voilà, il n'y a pas, forcément un mépris du coach, mais en tout cas, c'est sûr que là-dessus, il y a eu un aspect mental assez visible. Et puis sur le terrain, moi je lis deux choses, deux dominos qui se sont fait tomber l'un l'autre. On va, je pense, assez vite y venir. C'est un Christensen au milieu et Kubarsi qui est lancé en défense centrale. C'est un choix tactique intéressant, à la fois pour ce que ça dit de la structure générale, mais même du profil des hommes. Alors je n'ai pas forcément marché sur le conducteur en détaillant tout de suite, mais je pense qu'en changeant les hommes, Xavi a aussi changé légèrement la façon de jouer parce que ce sont des joueurs. Des fois, on pense, on leur dit de jouer en 4-3-3, en 4-4-2, enfin, etc. Là, ce sont vraiment des profils très spécifiques. Un défenseur relanceur lancé en défense centrale et un défenseur qui est là lancé au milieu de terrain, qui ont changé un petit peu la structure et la façon de défendre et d'attaquer du Barça.
Je vois que tu as très bien lu le conducteur, parce que la question suivante était sur Pau Kubarsi, qui a seulement 17 ans, qui est donc défenseur central et qui a commencé le 21 janvier contre Betis et qui n'est pas sorti de la rotation. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui ?
Alors, ce que je peux dire déjà, c'est son âge, 17 ans, et pas beaucoup plus. Hein. Je crois qu'il a 17 ans et un mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est en plus quelqu'un qui n'est pas tout près d'avoir 18 ans. Il est vraiment extrêmement jeune, c'est la même génération qui a mal. Deuxième chose, devenu international. Alors c'est plus facile en Espagne que dans d'autres pays parce que les sélectionneurs espagnols ont tendance à ne pas être trop frileux. Gavi, pareil, avait été lancé en sélection très tôt, Pedri, pareil. Mais voilà, ça dit déjà quelque chose de son évolution, même si le réservoir au poste de défenseur central n'est pas forcément le plus grand en Espagne. Et surtout, une qualité de pied démentielle. C'est-à-dire que j'ai pas vu beaucoup de défenseurs centraux dans l'histoire récente, avoir la même qualité sur du jeu mi-long, jeu long. Jeu court, il peut y avoir parfois un peu de déchets. Là encore, ce week-end face à Las Palmas, il y a 2-3 passes qui tendent dans l'axe, qui sont un petit peu fortes, qui peuvent aboutir sur des énormes occasions adverses. Donc des fois, il a sa volonté de casser les lignes, d'aller de l'avant, de prendre des risques, peut limite se retourner contre son équipe. Mais il a déjà quelque chose, des orientations, où il fait en gros une espèce de petit crochet extérieur de son pied droit pour se donner du temps, s'écarter du défenseur. Et ensuite, il envoie des transversales à 50 mètres au millimètre. Honnêtement, ça demande à être confirmé sur la durée, mais intrinsèquement, pour moi, on est dans la gamme des Hummels et des Bonucci sur des joueurs. Enfin voilà, je suis pas sûr qu'il y ait 5 meilleurs relanceurs longs sur les 15 dernières années dans le foot, et rien que ça. En plus, bon, il est plutôt volontaire défensivement, c'est pas juste quelqu'un qui sait faire des belles passes, mais rien que ça, ça change totalement parce qu'on a quelqu'un qui permet en gros de sauter les lignes, quoi, d'attaquer beaucoup plus directement.
Tracy, tu as écrit un article dans l'équipe justement sur lui. Est-ce qu'en Espagne, il est déjà vu comme un titulaire indiscutable s'il n'y a aucun blessé et même dans le groupe de 23 pour l'Euro ?
Oui, il est vu comme un titulaire indiscutable. D'ailleurs, quand je fais mon 11 du Barça pour le PSG, bien entendu que Pau Kubarsi est titulaire. Il est vu également comme un joueur qui sera présent à l'Euro. En fait, il est totalement, il s'est intégré très rapidement. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait vu à l'époque avec Gavi. C'est-à-dire qu'il arrive, il joue ses premiers matchs avec le Barça et tout de suite, on a la sensation qu'il va s'installer. Alors bien entendu, comme le dit Christophe, il va falloir confirmer, notamment sur le quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Mais effectivement, quand j'en parle avec, un de ses formateurs justement pour l'équipe, quand je lui demande quelle est sa qualité première, je m'attends tout de suite à ce qu'il me réponde du coup sa qualité de relance qui honnêtement est incroyable du stade. On a la sensation, alors c'est sans doute pas le cas, mais on a la sensation que chaque long ballon qu'il donne arrive à destination presque, voilà, comme le disait Christophe, presque au millimètre près. Donc c'est assez impressionnant, mais quand je demande quelle est sa première qualité, son formateur Albert Pouch me répond « j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mature ». Voilà, lui il l'a connu plus jeune, je crois quand il avait 13 ans, et il me dit « j'ai jamais vu un joueur de 13 ans aussi mature, qui travaillait, qui n'avait pas spécialement envie d'être une star, il est très bien entouré, voilà, il me dit ça, qu'il est extrêmement humble, qu'il est extrêmement travailleur ». Et après il me dit « mais c'est vrai qu'il a une très grosse qualité de relance ». Et c'est assez souvent ce qui ressort d'ailleurs des joueurs de la Masia, c'est qu'on essaye quand même d'assez bien les entourer.
Alors il y a d'autres jeunes joueurs qui ont émergé, on connaît évidemment Gavi et Pedri, Lamine Yamal depuis le début de la saison, on a Hector Faure, on a Fermín López même s'il a 20 ans. Tracy, est-ce que c'est la situation économique du Barça qui a forcé ce retour à la formation, ou est-ce que c'est vraiment des joueurs qui sortaient du lot?
Il y a différentes, versions. Certains vont vous dire que si les joueurs sont très forts à la Masia, dans les équipes de jeunes, si les joueurs sont très forts, ils finiront toujours par s'intégrer en équipe première et ils finiront toujours par émerger. Moi, je ne suis pas de cette team-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait un environnement. Je pense qu'il y a des joueurs dans les dernières années au Barça qui ont été de grande qualité, mais qui ne sont malheureusement pas tombés à la bonne période parce qu'il y avait une précédente direction, notamment la direction Bartomeu, qui ne croyait pas vraiment à sa jeunesse, ou tout du moins qui avait essayé de réformer ça d'une manière honnêtement pas très sympathique. Ça avait d'ailleurs poussé des entraîneurs de la Masia à quitter le club parce qu'il y avait, des désaccords. Bartomeu voulait changer, on peut dire, l'ADN du club. Et donc, ça n'a pas plu à certains entraîneurs, même à certains parents à l'époque. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de problèmes au centre de formation. Donc, bien entendu, il faut une direction qui croit à la formation du club, qui croit aux entraîneurs de formation. Mais bien entendu, on ne va pas s'en cacher parce que c'est la réalité, bien entendu que la situation économique a un impact. Si tu as peu de joueurs, tu es obligé de piocher dans ton centre de formation. Et après, ce n'est pas tous les clubs qui le font. Certains clubs ont des difficultés, mais vont quand même aller acheter un joueur à 1 ou 2 millions quelque part. Ce n'est pas le cas du Barça. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Valence qui a aussi des grosses difficultés financières. Et là, parvient à faire une saison extraordinaire en Liga, quasiment avec un 11, j'exagère un peu, mais avec un 11 de joueurs formés au club. Donc, oui, bien entendu que la situation économique, elle joue son rôle. Par exemple, je prends le cas qui est le plus marquant, c'est celui de Firmin. Parce que Firmin, c'est un joueur, si vous demandez à tous ses formateurs, aucun n'aurait pensé qu'il aurait le niveau pour jouer au Barça. Pour le coup, ce n'est pas un joueur où tout le monde l'avait repéré, tout le monde s'était dit « Ah, lui, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. » Il part en prêt. Le fait qu'il revienne, c'est quasi à 100% dû à la situation économique. Après, Xavi voit en lui quelque chose et il reste. Mais son opportunité, on va dire, il l'a eu grâce à la situation économique. Donc, bien entendu que ça joue un rôle.
Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que la plupart des joueurs qui sont lancés ont l'air d'être au niveau. Alors déjà, il faut noter que les 4 joueurs les plus jeunes à avoir été disputer un match de Liga cette saison appartiennent au Barça, ce qui est quand même pas commun. On pourrait se dire que des petites équipes vont plus facilement s'appuyer sur des joueurs de 16-17 ans. Bon, la Liga est alors pas âgée, mais il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont débuté cette saison à moins de 18 ans. Mais bon, cette statistique, c'est Yamal, Koubarsi, Forte et Guillou, qui sont les quatre plus joueurs à avoir disputé des matchs. Ce qu'il faut quand même donc noter, pour revenir à mon point initial, c'est qu'il y en a, il y a assez peu de joueurs dont on se dit, bon, dans tous les cas, ils n'auraient pas été lancés, mais on voit qu'ils ne sont pas au niveau. Et moi, j'ai des souvenirs du Barça, qui était obligé à certains moments de jouer avec Mounir El Haddadi ou Sandro il y a quelques années. On se disait, bon, c'est gentil, le niveau autour d'eux est très très fort, donc du coup, ils arrivent à peu près à donner le change, mais si on met des partenaires moins bons, en fait, ils sont en bout de chaîne, ils n'auraient jamais les munitions, ils ne seraient jamais capables de créer le jeu eux-mêmes. Et là, Koubarsi, Yamal, pour moi, tire l'équipe vers le haut. Fermin aussi, on peut estimer qu'en tout cas, ils se font largement dans le décor. Et il y a assez peu de joueurs dont on se dit, bon, c'est un peu des passagers clandestins. Ils sont là, ils font au mieux, c'est le 11e joueur. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il faut donner du crédit à Xavi d'avoir eu le courage de lancer ces joueurs-là. Mais c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus forcé que quand on lance Busquets à la place de Yaya Touré à l'époque de Pep Guardiola. Donc c'est la poule et l'œuf, mais je pense que peut-être que dans quelques années, le Barça ne va pas remercier cette crise économique, mais en tout cas se dira, au moins, ça nous a donné l'opportunité de lancer des joueurs qui auraient peut-être été prêts 2-3 ans plus tard, qu'on aurait dû prêter, ou dont on n'aurait pas trop su quoi faire, chose que le PSG n'a jamais dû faire, et du coup, bah, les Coman, Nkunku, etc. se sont développés ailleurs.
Tracy, est-ce que le modèle de protection des jeunes pépites a évolué à Barcelone ? Je parle sur le coup des jeunes qui jouent trop, notamment Gavi avant sa blessure. Ansu Fati a eu un coup de mou et a même été prêté à Brighton cette saison. Alejandro Balde est out après avoir énormément joué. Est-ce que c'est un domaine de réflexion en cours pour les dirigeants catalans ?
Oui, il y a une vraie réflexion par rapport à la protection des jeunes joueurs au Barça et aussi en sélection. Parce que du coup, si on prend le cas de Pedri, qui est un petit peu l'exemple à ne pas suivre, notamment lors de sa saison 2021, où il a enchaîné donc, la saison avec le Barça, plus l'Euro, plus les JO, c'est quelque chose que le Barça ne veut pas reproduire avec ni Pau Koubarsi, ni Lamine Yamal, qui seraient amenés cette saison à jouer donc, l'Euro et les JO. On l'a vu en début de saison, Xavi, il a fait assez attention à Lamine Yamal. Si on regarde un petit peu les matchs joués par Lamine Yamal, donc il a joué les 29 matchs de Liga, mais il n'est pas titulaire à chaque fois, il a été titulaire qu'une fois sur deux. En début de saison, il faisait très attention, Xavi. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il lui a été reproché. On lui a dit « Ah, on aimerait voir plus souvent Lamine Yamal ». Donc c'est aussi ça, ce rapport un petit peu étrange par rapport aux jeunes et ce rapport qui se crée, c'est qu'ils sont nouveaux, ils sont tout neufs, on a envie de les voir plus, donc on réclame aux entraîneurs de les voir plus. Et après, quand ils se blessent, on va dire « Ah oui, mais ils ont trop joué ». Mais en début de saison, Xavi faisait attention. Ce qui a changé, c'est à un moment donné, notamment la blessure de Rafinha. Et bien entendu, après ça, Lamine Yamal a beaucoup plus joué et puis il a été exceptionnel. Et donc forcément, ça a poussé Xavi à mettre beaucoup plus Lamine Yamal titulaire. Je crois qu'il a fait un enchaînement là assez impressionnant. Donc Xavi a compris qu'il fallait le reposer. Il y a un match où il est resté totalement sur le de A à Z. Parce qu'aussi, ça commençait un petit peu, je le dis, à siffler au niveau musculaire. Donc, je le dis, il y a surtout aussi une réflexion avec la sélection. Le Barça va faire en sorte que les joueurs, peut-être, ne jouent pas les deux compétitions, pas l'Euro et les JO, mais c'est délicat. Si les joueurs ont envie de jouer les deux compétitions, c'est difficile de leur dire non. Les JO, c'est pas non plus, ça arrive qu'une seule fois dans une vie, en tout cas pour les footballeurs. Donc, c'est délicat. C'est assez délicat. Il faut s'asseoir peut-être avec la sélection, mais bon, les relations ne sont pas spécialement toujours au beau fixe avec la sélection, notamment après ce qui s'est passé avec Gavi, puisqu'on rappelle que la blessure de Gavi, elle intervient en sélection. Mais il y a aussi, malheureusement, la réalité. Et la réalité, c'est que le Barça a un banc très court, beaucoup de blessures musculaires cette saison, beaucoup de blessures tout court, et que si ce n'est pas Lamine Yamal qui joue, ce sera un autre jeune, puisque de toute façon, il n'y a pas de solution. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Mais effectivement, il y a une réelle réflexion au club.
Alors, un point assez ironique, c'est que Lamine Yamal ayant 17 ans, il pourrait tout à fait faire les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles, vu qu'il serait encore dans la bonne tranche d'âge. L'un des transferts de l'été 2023, c'est celui d'Ousmane Dembélé vers le PSG. Est-ce que, Tracy, le Barça a tout de suite pensé que Lamine Yamal serait titulaire ou ça plus penché vers Rafinha au début et les blessures et le bon niveau de Yamal ont fait la différence ?
Personnellement, je n'ai jamais pensé que Rafinha allait pouvoir remplacer Dembélé pour une raison assez simple, c'est que déjà, quand ils étaient tous les deux au club, on voyait très bien qu'il y avait quand même une différence de niveau. Alors, c'est sûr que dans le cas de Dembélé, il y a souvent ces blessures qui revenaient sur le devant de la scène, même si sur les deux dernières saisons, c'était quand même un petit peu plus mesuré en termes de blessures. Il n'y a eu qu'une blessure, d'ailleurs, sur la dernière saison avec Xavi. Mais déjà à l'époque où ils étaient dans le même club, Rafinha ne parvenait pas vraiment, en termes de niveau, à dépasser Dembélé. et dans la tête de Xavi non plus. Xavi ne voulait pas que Dembélé s'en aille, on l'a dit et répété, il a tout fait pour convaincre Dembélé de rester. Ça n'a pas fonctionné pour de nombreuses raisons, notamment des raisons financières. Mais oui, Lamine Yamal, il apparaît un petit peu comme celui qui remplace Dembélé, en tout cas dans le style, bien entendu, que tout le monde s'est dit. Lamine Yamal va tenter de remplacer ce que le Barça, ce dont le Barça avait besoin la saison dernière, c'est-à-dire cette touche de folie. C'était souvent Dembélé, le joueur qui a amené la dernière passe, et c'était effectivement Lamine Yamal. Mais est-ce que les gens s'attendaient à ce que Lamine Yamal ait ce niveau, en tout cas aussi fort, je ne suis pas sûre.
Alors, un autre point du terrain à aborder, c'est le milieu de terrain. Busquets n'a jamais été remplacé au poste de sentinelle. Gavi, Pedri et De Jong ont été blessés cette saison. Christophe, selon toi, quel serait le milieu idéal pour le FC Barcelone pour embêter Paris au Parc des Princes et même au match retour?
Alors, il y a la question des blessures qui rend toujours mon propos.
On rappelle qu'on enregistre le mercredi 3 avril, donc 7 jours avant le match. Donc, si vous écoutez le podcast lundi ou mardi prochain, il y a peut-être des joueurs qui seront disponibles ou non, mais on ne peut pas vous le dire tout de suite.
Voilà, on peut parler à cette heure-ci, mais j'ai tendance à penser, même si je ne suis pas le plus grand fan de l'idée de Christensen devant la défense. Alors, c'est une trouvaille de Xavi, mais Christensen l'avait déjà fait à la fois à Gladbach en début de carrière, et puis aussi avec le Danemark, où il était défenseur central, et puis il s'insérait au milieu, un peu comme ce que faisait John Stones la saison dernière avec Manchester City. Là, c'est simplement qu'il est fixé à ce poste-là, et qu'il a globalement une bonne compréhension du jeu, et voilà, ce rôle très défensif, où finalement, je pense qu'il fait un peu tout comme Oriol Romeu, mais en mieux. Donc c'est-à-dire que le plan de départ du début de saison, d'avoir un profil à vocation assez défensive, parce que finalement, à part De Jong dans un profil différent, il n'y a pas de Busquets bis dans l'effectif, et du coup, on n'aura pas une sentinelle capable de casser les lignes, de relancer sous pression, etc. Je pense que ce profil-là, en plus face à Paris, qui a tendance à faire pas mal en mettre Dembélé en espèce de faux 9, numéro 10, donc c'est à peu près la même zone. J'ai envie de dire que Christensen, qui est un joueur très bon dans le 1 contre 1 défensivement et qui connaît Dembélé, ça peut être une forme d'avantage. Donc j'ai envie de dire, si on prend le truc un peu comme une complémentarité, comme un jeu d'échecs, avoir un profil très défensif en Christensen qui est quand même capable de faire la passe vers l'avant, avoir un créateur en Pedri et un Gundogan qui est un peu le parfait troisième homme, c'est on peut l'imbriquer un peu avec n'importe qui. Il est bon sous pression sans être incroyable. Alors, on a fait un podcast à son sujet il y a quelques mois avec Tracy, donc on invite tous les gens à aller le réécouter. Mais globalement, il peut être de sentinelle à quasiment faux numéro 9, Gundogan. Beaucoup de courses, beaucoup de déplacements, une vraie qualité technique. Donc j'ai envie de dire que pour moi, là, puisque ce que j'en sais, ce que je vois de Paris, mettre quelqu'un dans la zone numéro 10, pour bloquer potentiellement le surnombre parisien au corps du jeu, avoir un bon dribbleur, bon passeur, et puis Gundogan en troisième homme, ça me paraît être la meilleure formule, mais je ne sais pas s'il y a une formule absolue que Barcelone va 100% utiliser et où Luis Enrique aura un temps d'avance. Voilà, il y a toujours un peu ce côté, on contre en imaginant ce que va faire l'adversaire, c'est pas le Barça des années Guardiola ou autre, où en fait on savait 100% quels seraient les joueurs sur le terrain, et du coup on faisait au mieux pour essayer de contrer ce qui était une machine implacable et qui faisait toujours la même chose.
On rappelle que Gundogan est le joueur qui a le plus joué en Liga avec le FC Barcelone cette saison. Tracy, on a une situation plutôt insolite pour un club comme le Barça. Ils ont 11 jours pour préparer le match aller contre le Paris Saint-Germain, puisque c'est week-end de finale de Coupe d'Espagne ce week-end. Est-ce qu'on connaît leur planning? Est-ce qu'on sait comment ils préparent ça? Est-ce qu'ils ont pris du repos? Est-ce qu'ils ont refait un peu de foncier?
Alors, il y a eu du repos après la victoire de samedi contre Las Palmas. Comme souvent, malgré le repos, certains joueurs sont venus sur leur jour off s'entraîner. C'est le cas en général des joueurs qui sont sur le retour, donc notamment de Pedri qui est venu s'entraîner pendant le jour off. Là, cette semaine, il y aura entraînement comme d'habitude, avec un entraînement un peu plus... alors, on l'a su ces derniers jours, le Barça a un petit peu monté de niveau les entraînements, puisque pour une raison assez simple, c'est que le Barça, du coup, n'a plus donc que la Liga et donc le match du PSG, et avec cet énorme trou de 10 jours. Donc, il ne faut pas non plus... donc, ça peut être un avantage d'avoir du repos, mais il ne faut pas non plus faire retomber le rythme. Donc, les entraînements sont quand même soutenus. Et il y aura, je crois, pour ce week-end, un peu de repos, mais bon, sans doute qu'une bonne partie des joueurs vont venir quand même sur leur jour off un petit peu s'entraîner.
Alors je fais un petit point calendrier, le PSG affronte Clermont en championnat ce samedi. La petite différence, c'est que le Barça jouera à Cadix le week-end du 13 et 14 avril, pendant que le PSG ne jouera pas en Ligue 1. Le match contre Lorient a été repoussé au mercredi 24 avril. Autre petite précision, la finale de la Coupe d'Espagne aura lieu ce samedi à 22h sur la chaîne L'Équipe. Alors Christophe, je vais reprendre une de tes phrases tout à l'heure, où tu parlais de la position d'Ousmane Dembélé. On l'a vu très axial contre la Real Sociedad et l'OM notamment. Est-ce que ce serait une bonne idée, selon toi, contre le FC Barcelone ?
Alors ça peut l'être, tout dépend comment on prend le problème. C'est-à-dire soit Luis Enrique se dit « je suis tellement attendu sur ce côté, je mets un quatrième milieu de terrain pour avoir un 4 contre 3 », ce qui est globalement l'idée pour laquelle, enfin, qui sous-tend le fait de mettre Dembélé dans une espèce de rôle, on va dire numéro 10, puisque dans les faits c'est plus numéro 10 que faux 9. J'ai tendance à penser que Paris a suffisamment d'armes pour ne pas être obligé de se dire « on veut gagner la bataille du milieu de terrain ». C'est-à-dire que, ne serait-ce que, ça paraît tout stupide, hein, dit comme ça, j'apprends pas grand-chose aux gens, mais la menace Mbappé en profondeur, en permanence, fait que Paris peut gagner le match en laissant la balle à l'adversaire et sur une passe, en attirant, en se disant « bon, la défense du Barça n'est pas toujours supersonique non plus, il suffit d'une balle en profondeur, ça peut fonctionner ». J'ai même envie de penser que, en se disant « allez, on va faire monter Cancelo, on va un petit peu l'attirer parce que c'est quelqu'un qui est quand même très tourné vers l'avant, qui peut jouer à l'intérieur », en se disant, alors ça ne veut pas dire que Paris aura 30% de possession, mais disons, je ne pense pas que Barcelone soit l'adversaire dont on se dit il faut absolument avoir le contrôle du match pour le match. Je pense que Barcelone peut avoir le contrôle du jeu et perdre 2-0 parce que Paris aura su piquer sur des attaques rapides. Moi, la vraie interrogation que j'ai, c'est vraiment cette utilisation de Dembélé, en fait, parce que sa zone préférentielle est celle de Cancelo, qui n'est pas un bon défenseur. De manière générale, le couloir gauche du Barça est plutôt un couloir offensif, là où le couloir droit, sur les dernières années, c'est du Koundé, c'est du Araujo, etc. Donc c'est plutôt un troisième central, alors qu'à gauche, avant, c'était Baldé. Enfin voilà, il y avait ce côté assez déstructuré du Barça avec un couloir gauche qui attaque énormément. Et me demande à quel point cette asymétrie va pas être plus exploitée par le Barça par le PSG en mettant un profil très offensif dans la zone couloir droit, donc du coup Dembélé, plutôt que de se dire on se prive un peu de quelqu'un dans cette zone-là. Mais finalement, un Kolo Muani couloir droit pourrait aussi faire du mal si on considère qu'un Cancelo se projette et que du coup il y a de l'espace à attaquer. Mais j'ai tendance à dire que je verrais plus Dembélé couloir droit là, à l'instant où on se parle, qu'au cœur du jeu pour absolument avoir le contrôle du match.
Un couloir droit parisien qui sera privé d'Achraf Hakimi, suspendu. Comment le Barça peut en profiter selon toi ?
Alors pour moi, c'est...
Et qui serait le meilleur remplaçant pour Hakimi si on se place côté parisien ?
Alors, le meilleur remplaçant, je pense qu'il n'y a pas de deuxième profil faisant comme Hakimi côté parisien. Alors bon, on a des fois des trucs avec Zaïre Emery, mais je ne suis pas sûr qu'il faille l'enlever de sa position préférentielle pour le mettre dans une espèce de rôle de faux latéral. Pour moi, le problème est plus offensif que défensif côté parisien. C'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que Hakimi n'est pas un mauvais défenseur, mais pas un bon défenseur non plus. Par contre, ce qu'il apporte côté parisien, c'est évidemment avec ballon, capacité à percuter, à centrer, à déborder, mais aussi, ne serait-ce que par ses courses, finalement, il fait une fausse piste et il peut y avoir des deux contre un face aux défenseurs adverses et du coup donner de l'espace à Dembélé. Honnêtement, il y a parfois juste les courses à vide, le fait d'être là qui fait un peu oula, qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a Hakimi, hop, Dembélé en profite, ça fait un quart de seconde en plus et ça lui permet de faire une différence. Je pense qu'en fait, le gros problème côté parisien, c'est ça, c'est finalement, il y aura peut-être un 1 contre 2 plutôt qu'un 2 contre 2, voire un 2 contre 1. Parce qu'il n'y aura pas de latéral qui va venir dédoubler. Donc, pour le coup, ça pourrait sous-tendre l'idée de se mettre un Zaïre Emery là, mais je pense qu'il est trop important au cœur du jeu pour s'en priver. Je pense que par un jeu de domino, ça serait pas forcément la bonne idée, mais ça peut contredire ce que je disais avant sur le côté Dembélé à droite. On peut se dire, ou alors on abandonne totalement l'idée d'un couloir droit offensif et on met Dembélé dans l'axe et on surcharge vraiment cette zone, mais je pense que c'est l'apport offensif d'Hakimi qui va manquer. Et Il y a plein de solutions sur le banc parisien, mais j'en vois pas une seule qui aurait les mêmes caractéristiques, même en moins bon.
Tracy, est-ce que la presse catalane suit l'actualité sur les frictions entre Kylian Mbappé et Luis Enrique ? Et à quel point le français fait peur aux Catalans ? Est-ce qu'il se rappelle encore du match aller-retour en 2021 notamment ?
Bien entendu qu'en Catalogne, on suit ce qui se passe entre Luis Enrique, qui est toujours très aimé hein, ici, et Kylian Mbappé, qui lui, du coup, est vu comme le futur madrilène. Donc forcément, vous doutez bien que tout le monde a choisi son camp entre les deux. Mais effectivement, oui, on en parle. On n'a pas forcément la sensation ici que ça va changer grand-chose. Hein. On ne se dit pas que le PSG va être amoindri à cause de ces supposées guéguerres entre l'entraîneur et Kylian Mbappé. À quel point j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une très grande peur de Kylian Mbappé. J'ai surtout l'impression en fait que les gens ici ont peur de Luis Enrique. En fait, il y a tellement un immense respect pour Luis Enrique, il y a tellement la sensation ici que c'est l'entraîneur qui pourrait peut-être emmener le PSG en finale de Ligue des Champions, voire gagner la Ligue des Champions avec le PSG, que c'est peut-être plus lui qui fait peur, c'est peut-être Luis Enrique, qu'est-ce qu'il va sortir de son chapeau pour tenter de battre le Barça. Il y en a même ici qui souhaiteraient un retour de Luis Enrique pour remplacer Xavi. Pour Mbappé, on n'a pas encore sorti les vidéos, les souvenirs des anciens matchs. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a une immense confiance du Barça, dû, je pense, à sa saison assez médiocre, notamment au début de saison assez médiocre. Le Barça arrive avec beaucoup de respect face au PSG, beaucoup de journalistes et moi-même d'ailleurs, on est assez d'accord pour dire que le PSG part favori. Pas immensément favori, mais en tout cas favori. Le PSG paraît un petit peu plus consistant, avec un petit peu plus de certitude que le Barça, qui enchaîne les victoires, mais depuis juste 2 mois. Donc voilà, il y a quand même un respect pour le PSG. Il y a une peur du PSG qui est entraînée, une petite peur entre guillemets du PSG qui est entraînée par un très grand entraîneur qui est Luis Enrique. Et bien entendu, Mbappé, peut-être que le Barça aimerait déjà essayer de contenir Mbappé. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça devrait être Jules Koundé qui devrait jouer latéral droit, parce que souvent, face à un grand joueur, Xavi avait pris l'habitude de mettre Ronald Araújo à droite, mais là on partirait visiblement sur Araújo dans l'axe et Jules Koundé à droite, comme depuis les derniers matchs où le Barça va plutôt bien.
Alors, je rebondis pour une dernière question sur ton petit point, la saison du FC Barcelone. Xavi, juste après la victoire contre l'Atlético, où il avait été expulsé, il a dit « Je pense qu'il est encore temps de rêver », sous-entendu de rêver de la Liga. Le club reste à 7 points du Real. Est-ce que les dirigeants barcelonais y croient encore, ou est-ce qu'ils sont vraiment 100% focalisés sur le seul titre qu'on peut encore aller chercher, c'est la Ligue des Champions ?
En public, ils donnent l'impression de toujours croire à la Liga. Mais effectivement, ça paraît compliqué parce que le calendrier du Barça est plus compliqué, même si le Barça a quand même déjà passé le cap de l'Atlético Madrid. Le calendrier du Barça est beaucoup plus compliqué. Il y a le Real Madrid à l'extérieur, il y a encore Gérone à l'extérieur. Le calendrier du Real Madrid est beaucoup plus simple. 8 points, ça fait quand même beaucoup. Si le Barça avait encore une petite fenêtre, c'était face à l'Atlético. Après le match nul du Real Madrid contre Valence, et le Barça est passé à côté et a également fait match nul. Et je pense que le Barça a raté son occasion ici. Là, 8 points, même s'il reste un classico, même si on dit que le Barça gagne le classico, ça fait encore 5 points. Tout le monde a du mal à imaginer une équipe comme le Real Madrid perdre 5 points avec un calendrier beaucoup plus facile que celui du Barça. Donc effectivement, dans la réalité, je pense que tout est misé sur la Ligue des Champions, avec ce quart de finale qui, comme je le dis, même si le PSG est sans doute favori, reste un quart de finale accessible, parce que c'est pas City en face, parce que les équipes sont quand même assez proches l'une de l'autre. Et puis ensuite, dans une demi-finale, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc oui, je pense que tout est misé sur la Ligue des Champions.
On aura le temps d'en reparler, sans doute notamment du Classico, le dimanche 21 avril prochain. Merci à tous les deux. Merci aussi à Léa Léostic à la réalisation. Semaine prochaine, Marie-Amélie Motte reprend le brassard de capitaine de Big Five. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Salut.